Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes et ses rois cupides dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, promu commandant Kalshadim est toujours dans les bonnes grâces du roi Azim, mais de façon officieuse, avant d'être totalement disculpé des accusations de meurtre qui pèsent sur lui, Kal doit d'abord éliminer le frère aîné de son ancien commandant, Jabba Kuriga, le plus coriace adversaire politique du roi. L'homme est hébergé dans la villa de Némi, un riche commerçant. Le père Guilhem de Baskerbourg, toujours prisonnier dans son propre corps et répondant au nom de Lake, assistera Kal pour qu'il retourne à la lumière. Au milieu de l'océan, dans l'archipel des îles de fer, Solomon, Kenan et Ygritte ont été chaleureusement accueillis par le capitaine Neufdoigt et sa petite famille avant le grand duel judiciaire de Solomon. Mais dans la nuit, une créature frappe. C'est la même qui harcèle Solomon depuis son enfance. Un lieutenant de l'Empereur mort.
Chapitre 1. Pour se laver les mains, il faut parfois se les salir.
Un peu, moi je l'aurais fait un peu, j'avais imaginé de l'orchestrer un peu à la manière Guy Ritchie. C'est-à-dire que vous êtes autour d'une table à la taverne, Zifa vous explique le plan, et à mesure qu'il vous explique le plan, ben on a un renversement de caméra qui passe de la taverne à aller à la villa où se réfugie Jabba.
Allez, faisons ça. Allez, c'est parti.
On l'essaie?
Quoi? On n'a pas déjà commencé, là?
Écoute.
Allons-y.
Avez-vous...
Guilhem est prêt.
Oui, je vois ça. Donc, on commence ça. Nous sommes à la fin de la nuit. Cette même nuit, chaude et humide, vous êtes équipés du matériel amené par le capitaine Farid et ses hommes. Vous êtes tous les quatre attablés au fond d'une taverne à la salubrité très douteuse. Kal et Lake, vous êtes avec Zifa et le capitaine Farid.
Je dois partir dans l'heure pour regagner la capitale. Avec ce quatrième village attaqué, le roi rassemble ses forces, vous dit Zifa. Le mal qui nous attaque semble se diriger vers Ur. Et si cela arrivait, une cité de 45 000 habitants, je n'ose l'imaginer.
Il te regarde, Lake.
Ne vous inquiétez pas, Lake. Nous avons amplement pratiqué à vous concentrer sur la ténèbre. Vous ne flancherez pas.
Est-ce que tu te sens d'attaque?
Vous pensez que je pourrais flancher?
Non, j'essaie de vous encourager. Oubliez.
Muni d'une craie, Zifa commence à dessiner sur la table, hein, qui en a vu d'autres.
Jabba Kuriga loge dans la villa d'un riche ami commerçant, Alim Ashur. Aucun mal ne doit être fait aux marchands. La milice personnelle de Kuriga compte une quarantaine de soldats. Ils protégeront la première enceinte. C'est vous et vos 20 hommes qui devront les éliminer, capitaine Farid. Du moins les occuper. Afin que Lake et le commandant passent la deuxième enceinte et entrent dans la villa. Le bruit que vous ferez n'aura aucune importance, capitaine. La villa est à l'ouest de la ville et isolée de tous. Un privilège des riches.
Est-ce que vous voulez raconter comment cette escarmouche entre les 20 hommes du capitaine Farid et les 40 de la milice personnelle de Kuriga? On peut y aller avec une façon narrative, mais basée sur un jet de dés pour orienter la fiction un peu. Compte tenu de la surprise, la qualité de l'équipement et que le capitaine Farid est entouré de soldats d'élite, le jet se ferait à 60% et moins. Qui se mouille? Écoute, Christophe qui a maintenant des post-it.
Yes.
Faut y aller.
Allez, c'est parti. Donc, c'est un des 100 et c'est un 79.
79. La fiction tourne pas vers vous. Donc, je vous laisse me raconter comment commence cette escarmouche-là dans la... Il y a deux enceintes. Eux vont s'occuper de ces 40 hommes-là. Et ça commence pas très bien pour les hommes du capitaine Farid. Je vous laisse aller un peu.
Il y a une espèce de bulle, une espèce d'ellipse qui se passe avant, peut-être quelques heures auparavant, où est-ce qu'on voit un des soldats qui est juste en train de chuchoter à l'oreille d'un paysan ou d'un villageois qui fait signe de la tête, oui, et qui remet une bourse d'or à ce fameux soldat qui retourne à son poste. Maintenant, on comprend bien que l'effet de surprise a fuité et c'est ce qui va malheureusement coûter cher à beaucoup de nos hommes, à beaucoup des hommes sur cette attaque.
Ah, la cupidité là, merde.
D'ailleurs, alors que la troupe s'approche de la première enceinte, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des patrouilles peut-être, des gens qui surveillent à la petite tour. Et là, ils sont accueillis par une volée de flèches.
Ça fait mal. Effectivement, on voit quelques hommes de vos troupes tomber ou pire encore, être blessés. Donc... des soldats qui n'ont pas été touchés doivent prendre ces hommes-là et battre un peu en retraite, les mettre à couvert pour reprendre leur progression. Ça ne va pas très bien. On retourne dans la taverne alors que Ziffa est penché sur la table. Pendant que tout se passera et que les combats seront engagés, il y a deux gardes à la grille de la seconde muraille qui fait, elle, 5 mètres de hauteur. La caméra passe de la taverne à la villa. On entend les bruits de combat. Et l'un des deux soldats près de la grille dit à l'autre « Tiens, prends la clé et file prévenir le maître. » Nerveusement, le jeune soldat entreprend de déverrouiller la grille. L'autre, celui qui a ordonné de le faire, tient son cimeter bien haut et scrute les ténèbres qui nourrissent la nuit qui se termine. Dites-moi, est-ce là que l'on voit apparaître nos deux héros?
Bien certainement. Sortant de l'ombre, on voit le capitaine suivi de Lake qui s'avance doucement d'ombre en ombre pour s'avancer et parcourant le chemin qui les sépare enfin de leur cible. Je pense qu'à un moment donné, on voit le capitaine qui est doublé par Lake. Le capitaine reste figé, tel une statue, les jointures blanchissantes serrant ses cimetières.
Capitaine, que faites-vous?
Ça ne se passe pas bien pour eux là-bas. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons laisser ces hommes mourir sans rien faire.
Nous sommes en train de faire quelque chose, capitaine. Plus vite nous aurons agi, plus vite ce sera terminé. Restez concentrés, s'il vous plaît.
Vous avez...
Ils se battent courageusement. Soyez-en assurés. Ils font honneur à votre courage. Ils s'inspirent de vous.
Vous avez raison. Le capitaine reprend son chemin avec... je pense que c'est écrit dans son visage la douleur et l'effort que ça lui prend et l'espèce de sacrifice qui est en train d'être fait lui coûte énormément.
Et là, le soldat qui scrutait les ombres voit quelque chose bouger. Il y a quelqu'un qui va là! Il se retourne au jeune homme qui peine encore à déverrouiller la porte tellement il est nerveux. Grouille-toi, je t'ai dit! Et le soldat avance vers les ombres, vers vous.
Je pense que... Moi, je vais m'intéresser à celui qui est en train de déverrouiller la porte. Je me dis qu'il ne faut pas qu'il aille prévenir. Alors, je pense que sa clé va se bloquer, en fait. Il ne va plus être capable de la tourner comme il le veut pour déverrouiller la grille. Je contrôle, en fait, à distance, le métal pour le rendre totalement immobile.
On va dépenser seulement un point de focus pour ça. On fera pas de jet. Il n'y a pas vraiment d'adversité. Le métal, tu es capable de le modeler. Fait qu'on voit le jeune homme qui, la transpiration abonde à son front, ses cheveux qui dépassent de son turban se collent à sa peau. Je n'y arrive pas, ça ne bouge même plus! Le soldat qui avance avec son cimeterre bien haut commence à discerner des ombres, commence à identifier votre position.
La première chose qu'il voit, tout ce qu'il discerne, c'est une espèce d'éclat, comme si la lumière de la torche qui est en haut du portail vient réfléchir sur une surface réfléchissante, métallique. Cet éclat-là devient double. Et de l'ombre, on voit deux cimetières éclairés et scintillants. Et on voit l'homme, Kalshadim, la tête un peu baissée. C'est comme s'il regarde le sol, mais en n'en pas douter, sa concentration est palpable. Il s'avance vers l'homme sans trop le regarder, mais d'un pas sans appel, d'un pas déterminé, qui démontre clairement ses intentions.
Écoute, on voit la mâchoire du soldat se décrocher. Depuis plusieurs jours, des portraits du capitaine Kalshadim circulent. Et là, il l'a devant lui, le démon aux deux cimetières.
Lorsque le capitaine lève la tête vers le soldat, tout ce que le capitaine fait, c'est tout simplement un léger moulinet du cimetière de droite. Ce cimetière-là vient accrocher le deuxième cimetière, laissant échapper une espèce de lamentation métallique d'un cimetière qui glisse sur l'autre. Et le soldat... Et clairement, le capitaine, le commandant, que dis-je, sait comment intimider ses adversaires.
Ton jeu devait se faire à 70, il va se faire à 80.
Allons-y.
À 40 et moins, le soldat est éliminé. Pour les adversaires sans nom, sans personnalité, des figurants, il s'agit seulement d'une réussite totale pour l'éjecter du combat.
Excellent. Ah, ça fait 69.
C'est une réussite partielle. Tu vas le blesser, mais tu l'éjecteras pas.
Je voulais utiliser intimidation. Moi, j'ai un bonus avec l'intimidation. J'ai un 10% et tout ça pour l'intimider. Je voulais qu'il se sauve, tu sais, avec la réputation et tout ça.
Mais avec une première blessure, une bonne blessure, hein, c'est quand même la moitié de ses points de santé qui vont décoller. Et il se pourrait que le jeune homme détale après. Décris-moi un peu qu'est-ce qui se passe.
Ok, allons-y comme ça. Première passe d'armes, les épées se croisent. Cal dénote le. Espèce de tremblement dans la lame de l'autre. On dirait que ça le désamorce quelque peu, sans toutefois le défâché. Il a tellement accumulé et tout ça que. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement une espèce de torsion du poignet, dégageant la lame du soldat. Et de l'autre, son cimetière s'en vient directement à la hauteur de la tête de l'autre soldat, mais au dernier moment, sa lame tombe sur le plat et vient frapper dans une espèce de claquement de métal, tong, le plat du cimetière vient de frapper l'autre soldat à la tête. Peut-être le sonnant quelque peu, mais sans le blesser. Le soldat a très bien compris que son adversaire aurait pu le tuer à n'importe quel moment.
Pendant ce temps, Lake, tu as peut-être eu même le temps de te retrouver derrière celui qui tente en vain de déverrouiller cette foutue porte. Grille.
Exactement. Telle une ombre, je me déplace. J'arrive dans son dos et je pose. J'ai un couteau long dans ma main droite et je pose ma main gauche sur sa main qui tient fébrilement en forçant la clé et je lui dis : c'est inutile. Cesse.
Écoute, cet homme déjà croulait sous la peur et maintenant tu le menaces d'une lame alors qu'il est à ta merci. Sans demander son reste, tu vois qu'il lève les mains, laisse la clé à l'intérieur de la serrure et recule. Lentement, il descend ses mains pour comme détacher son boutrier et de laisser ses armes sur place. Pas plus que, je vous dirais, 19-20 ans. Je me sauve en courant. Je vous promets, je ne regarde même pas derrière. Et il fait des pas vers l'arrière. Que fais-tu, Lake?
Je le regarde droit dans les yeux. Et ma main gauche, en fait, est comme si elle flottait, en fait, dans l'air. Je fais des mouvements plus ou moins gracieux. Et à un moment, je l'attends dans sa direction, paume ouverte vers lui. Et il sent son énergie diminuer jusqu'à ce qu'il sombre dans l'inconscience.
Très bien. Tu as combien pour le sujet biologie? Tu as, je pense, c'est 3, 4 en mental.
Oui.
Et là, ce que tu es en train de faire comme verbe sur le sujet, c'est quoi?
Alors, ça pourrait être contrôle. C'est-à-dire, contrôler, c'est en gros, je veux le faire s'endormir.
Très bien. Fait que, on y va avec ça. Ça te donne un total de combien au niveau d'action?
Ça fait 5, 6, 7, 8.
8. Et si tu me prononces une espèce d'incantation, ben, tu vas monter encore plus haut. D'un.
Ouh.
Ce serait à bien. 90.
Je sens ton énergie qui palpite, je sens ta peur qui grandit. Retrouve la douceur du sommeil où tu vas pouvoir. J'arrive pas à improviser là.
Un peu plus, tu racontes une histoire, puis il s'endort, t'as même pas besoin de pouvoir.
Oui, exactement. retrouve la douceur du sommeil et tombe dans les bras de Morphée pour te sentir en sécurité. Voilà.
Yes. Très bien, fais-moi ton jet à 90, Lake.
Allez, c'est parti.
À quel point tu l'assommes?
37. Ouf.
C'est une réussite totale. Tu réussis exactement ce que tu veux faire. Donc, décris-moi qu'est-ce qui arrive à ce point.
Eh bien, tu sais qu'il faisait des petits pas pour s'éloigner de moi. Et puis, petit à petit, effectivement, ses yeux se ferment. Et il y a le poids de son corps devient très, très lourd. Ses genoux fléchissent et il s'effondre au sol doucement.
Très bien. Vous êtes débarrassé des deux hommes?
Oui.
Vous êtes devant cette porte, vous avez la clé. Vous l'ouvrez. On retourne à la taverne, Zifa qui rit. Vous devriez avoir le champ libre jusqu'à la villa. Alors qu'on vous voit marcher jusqu'à la demeure principale, y avait-il des chiens? Je ne croirais pas. Et là, dans la cour de la villa, on entend une respiration saccadée, une course rapide mais silencieuse sur l'herbe.
Moi, j'aurais une proposition à te faire.
OK, parfait.
Écoute, justement, on voit dans la taverne qui dit est-ce qu'il va y avoir des chiens? Et là, je vois Cal et Lake qui se regardent. ce regard-là, on arrive sur directement sur le non loin de la résidence. Ils se regardent toujours, les deux fouillent dans leur poche et jettent plusieurs morceaux de viande saignant au loin. On l'avait prévu.
Très bien. Alors que vous progressez, on voit vos mains poisseuses de sang. Vous êtes délesté de cette charge qui aurait pu être en superflu, mais ça servit. On voit quatre molosses en train de dévorer la pitance que vous avez laissée près de la grille, alors que vous avancez vers cette ville-là. À l'intérieur de la taverne, t'as Zifa. Ah non, je suis à peu près sûr qu'il n'y avait pas de chien. Zifa se penche à nouveau sur son dessin, sur sa table. Dans la villa, cinq hommes constituent la garde rapprochée de Jabba Kuriga. Écoute, elles seront sans doute alertées avec tout le bruit que vous allez faire. Donc, ils devraient vous attendre de pied ferme. Le chef de la garde est un soldat, un vétéran du Dominion. Vous savez, de ceux qui s'emmuraillent dans ces lourdes armures en fer. De retour sur la propriété du riche marchand Alim Ashour, vous arrivez au cœur de cette ville-là, hein, dans la cour centrale, coupée d'un bassin d'eau et décorée de vases et de plantes. À l'étage, un balcon fait le tour de la cour centrale. Un mouvement attire ton attention à gauche, Cal, au fond d'un couloir qui pénètre dans le bâtiment. Il y a une fillette qui te regarde, immobile, habillé d'une tunique rouge. Ton cœur cesse immédiatement toute activité. Aïcha, la fillette avec qui tu jouais l'été de tes 10 ans, près de l'oasis, ce jour où ton père t'avait grondé, c'est elle, pareil à il y a 20 ans. Tu revois une larme couler sur sa joue, alors que ton père te traînait au loin. La fillette que tu vois a également une larme qui coule. Es-tu en train d'halluciner, Cal? Que se passe-t-il?
C'est une très bonne question. Bon. Cal se reprend, essaie de secouer la tête comme si une hallucination ou peut-être la magie ou quoi que ce soit. Essayer de refocuser son attention sur la tâche, mais ses yeux ont de la difficulté à regarder ailleurs que cette petite fille, comme si le fait peut-être de fermer les yeux, de secouer la tête, la ferait disparaître.
Et alors que tu fermes les yeux et les ouvres plusieurs fois, une femme arrive en courant et se penche et prend la fillette dans ses bras. Et tu comprends, cette femme qui vient d'arriver est Aïcha, et l'enfant sa fille. Aucun doute. Lake, alors que t'as vu le commandant Shadim se figer à la vue de la fillette et de la femme qui la tient maintenant dans ses bras, toi tu vois courir sur le balcon 4 soldats qui entourent un homme drapé de tissu pour le couvrir et qui partent vers la gauche, à l'étage. À droite, en sens inverse, un homme en armure te regarde et pointe sa longue épée bâtarde vers toi. Une décision, Lake, alors que le commandant est comme figé. À gauche, vers le groupe qui fuit, ou accepter cette espèce de défi que semble te lancer ce chevalier?
Je ne suis pas un chevalier. J'ai cure de leur honneur et de leur défi. Par contre, j'ai une mission.
Alors que fais-tu?
Je pose ma main sur l'épaule de Kale en lui disant « Ils sont pas là, ils fuient !»
Que fais-tu, Cal?
Moi, je vais juste lui mentionner, je lui dis « Occupe-toi d'eux, je m'occupe du chevalier, mais ne blesse pas la femme ni les enfants. »
Tu me prends pour qui?
Et là, tu remarques mes yeux comme si une colère ou plutôt une espèce de menace que tu t'attendais pas de voir. Ne blesse pas cette femme et ses enfants.
Je ne dis rien et je me précipite vers les fuyards.
Très bien. Vas-tu arriver à les rattraper?
C'est une très bonne question.
Nous allons voir sous agilité, dans initiative rapidité. Ce n'est pas ta force, Lake.
C'est pas se mouvoir, c'est rapidité. D'accord.
Non, c'est okay. Vraiment initiative rapidité. Se mouvoir, c'est un peu, tu sais, tout ce qui s'appelle faire de nager, d'esquiver, tout ça.
Très bien.
Donc, on y va vraiment.
Et j'ai 4.
Et ça sera pas facile. Ton jet se fait à 50% pour réussir à les rattraper. Mais.
Ah, 50%,
50%. Tu as des ressources, on le sait.
Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on va y aller. On va y aller comme ça et on va faire un 93, un gentil petit 93, n'est-ce pas?
Oh.
Bon, c'est pas un fiasco, mais...
Non, est-ce que tu le gardes? Parce que tu as toujours moyen de prendre un état émotionnel et d'avoir une réussite partagée, automatiquement.
Je pense que je vais prendre un état émotionnel, effectivement. Alors, lequel?
Alors, quand on te voit courir derrière ces quatre hommes qui en protègent un cinquième, qu'est-ce qui se passe?
Je pense que pour l'instant, je serai un peu stressé par ce qui se passe.
donc, le stress t'envahit.
Peut-être contrarié. Non, contrarié. Ouais, contrarié, ça me semble mieux.
Et ça vient fouetter ton sang, alors que tu perdais un peu de distance par rapport à eux. On te voit peut-être sauter par-dessus un garde, prendre un saut un peu risqué pour te trouver juste derrière eux, mais pas assez pour les agripper pour l'instant. Toi, commandant, que fais-tu?
Moi, je recule doucement dans la cour, question d'avoir le plus de place. Je me mets face à cet homme en armure.
Curieusement, le chevalier n'a pas avancé vers toi. Il se tient à l'étage, au balcon, et te pointe, mais ne fait pas un geste.
Est-ce que je le vois bouger ou quelque chose?
Oui, il a bougé. Okay. Tu vois que la lame a tendance à aussi osciller légèrement au bout de sa main tendue.
Je lui dis « J'accepte ton défi, chevalier. Allez, montre-moi si sous cette armure, il y a de l'honneur. »
Il se met en garde, mais il reste à l'étage. Que fais-tu, Cal?
J'attends peut-être 5-6 secondes sans trop bouger, comme si je lui signifie clairement que je l'attends. Mais lui, ne bouge pas, c'est
non.
ça?
Et tu comprends qu'il y a quelque chose dans son comportement qui a aucun sens. On retourne du côté de Lake.
Alors, dis-moi.
T'es à 3 mètres.
Donc, il y a 4 gardes, on va dire, et il y a notre cible, en fait.
Oui, il y a un homme qui ont drapé puis qui l'aide à s'extirper de l'endroit.
Pourquoi l'ont-ils drapé? Mon sens de la déduction me titille. J'ai une espèce de d'alerte qui me fait dans mon esprit.
Mais oui, tu es très bon pour analyser une situation.
Tout à fait. Limite, c'est un petit peu comme si le frère Guilhem, piégé dans mon esprit, était en train de tambouriner en disant « Mais imbécile !» Ils sont en train de faire une diversion. Ce n'est pas ta cible.
Très bien. Tu vas me faire un jet à 80%.
80%. Eh bien, c'est parti. Hop. Un jet à... Et 52.
52. Écoute, le père Guilhem, parce qu'en bas de 40%, OK, on aurait vu le père Guilhem avoir la chance de rejaillir, d'être là, que ce soit lui qui soit dans cette ville-là. Mais tu as compris. Tu as compris à ce moment-là, peut-être juste quelques secondes trop tard, parce que tu entends la personne qui est drapée qui crie « Maintenant !» Et cet accent qui vient de chez vous, toi, Père Guilhem, qui est à l'intérieur. L'homme qui était au centre des quatre hommes se redresse. La cape qui l'entourait vole. Et il se retourne, et tu reconnais très bien la peau blafarde d'un homme du Dominion. De ton côté, Kalshadim, tu es toujours au rez-de-chaussée, au milieu du jardin, et l'homme est en garde au balcon.
Je vais... Bon, Évidemment, évidemment, Cal comprend que quelque chose cloche, mais il n'est pas tellement certain de la teneur du guet-apens ou peut-être du piège. Ou en... il regarde à sa droite, à sa gauche. Oh, il vient de voir quelques barils à côté au mur, plutôt adossé au mur, ce qui pourrait lui permettre en quelques bonds d'apparaître au deuxième étage. Et avec une rapidité qui est étonnante pour un homme de son âge quand même, il se lance à l'escalade de ce mur en quelques pas et pour apparaître au deuxième étage.
Et là, tu as vu clairement le chevalier reculer de deux pas. Clairement pas l'attitude d'un vétéran du Dominion.
Cal va jouer le tout pour le tout. Il va lui dire, si tu veux survivre, lâche cette épée.
C'est le roi qui vous envoie.
Et derrière cette tôle de métal, cette voix déformée, ben tu reconnais la voix d'un compatriote de Mézorin. Et là, il tend l'épée bâtarde devant. N'est pas vraiment la façon de tenir une telle arme.
Tu risques moins de te déshonorer en lâchant cette arme que visiblement tu ne sais pas tenir. Et Cal va s'approcher de lui d'une façon assez menaçante, mais les épées quand même vers le sol. Et lorsqu'il va être à distance, il va relever son épée rapidement pour frapper l'épée du chevalier dans l'optique de le désarmer.
Très bien. Écoute, contre lui, c'est un jet à 100%. Donc 50 et moins, tu réussis exactement ce que tu veux.
Parfait. Excellent. Allons-y. Ah, 52. Non, excuse, 7.
7, écoute, c'est amplement réussi. Décris-moi ce qui se passe.
Cal avance d'un bon pas. À ce moment-là, il a compris l'allusion au roi, le côté chevalier qui sait pas trop se servir de cette arme. On dirait qu'il y a une lueur. C'est un subterfuge. Ils ont essayé de le faire passer pour le chevalier, mais dans le fond, c'est exactement lui qu'on doit venir chercher, qu'on doit plutôt... c'est lui la cible. Cal s'avance et remonte son épée à la dernière minute. Un cimetière vient frapper avec une rapidité directement à l'oblique qui vient frapper son épée bâtarde. Surpris, son bras va frapper la rambarde du l'espèce de balcon et dans un mouvement comme au ralenti, on voit l'épée bâtarde chuter avant de faire une espèce de tonk sur le sol de la cour intérieure. Les yeux de Cal se lèvent vers le chevalier en armure. Je crois que il serait préférable que vous retiriez ce casque dès maintenant.
Alors que sa main se porte à son casque, on s'en retourne du côté de Lake. 5 adversaires foncent sur toi, alors que tu courais vers eux. Mais tu es Lake désormais.
Je suis Lake, effectivement. Et est-ce que tu peux me recontextualiser la scène, là où je suis, ce qu'il y a autour de moi?
Toi, tu t'es pris en course vers la gauche, hein, sur ce balcon, et là, sans doute que vous avez dévalé des escaliers, il y a eu quand même une courte poursuite. Vous êtes encore comme à l'intérieur de la maison, mais eux s'apprêtaient à franchir la dernière porte qui mène au jardin arrière. Et là, ils ont stoppé, l'homme du Dominion a lancé sa cape, et là, les 5 se sont retournés, épée vers toi.
Très bien. Eh bien, Je sors, j'ai toujours ma dague dans la main.
Oui.
Et tandis qu'il se précipite dans ma direction, je me baisse et je fais teinter, en fait, ma dague sur le sol. Ça produit un tintement, un son métallique. Et je m'empare de ce son. Je le prends entre mes mains. Je le fais grandir. Je le fais se bonifier, gagner en puissance, et je le renvoie vers eux.
Très bien. Ton but, quel est le verbe qu'est-ce que cette
le verbe,
l'onde va faire contre eux. Tu contrôles.
Exactement.
Mais est-ce que contre eux, est-ce que tu vas les c'est pour les assommer, c'est pour les blesser?
Les propulser en arrière, en fait, à travers la pièce, à travers. Qu'ils aillent se fracasser contre les murs, qu'ils aillent...
Très bien. Tu vas me faire ton jet.
Une grosse onde de choc, en fait.
C'est bon. Et est-ce que tu murmures quelque chose à ce moment-là?
Que le tintement de l'arme soit la force qui vous amène à la déchéance.
Très bien. Fais-moi ton jet à 80%.
Ouais, parce que j'ai 4 en mental, tati, tata, voilà,
ouais, 80. Ouais, tu vas être proche de 9 et...
C'est parti. 80, 80, 80.
On y croit. On fait un jeu.
Oh non.
Non, non.
Oh,
c'est pour ça que tu avais tiré tantôt, non?
Non, j'avais tiré 52. C'est mon résultat, ça, malheureusement.
Très 17. Est-ce que tu prends un autre état émotionnel? Parce que là, tu as 5 hommes qui font sur toi. Est-ce qu'il y a un stress qui est en train de te prendre?
Ouais, quand même. Le stress, ouais. Le stress.
Très bien. Une réussite partielle. Dis-moi, tu vas réussir à les envoyer au sol. Tu aurais voulu les assommer, tu sais, au point qu'ils éprouvent de la difficulté à se relever, à reprendre leur esprit. Mais tu vas quand même réussir à les projeter là 3 mètres vers l'arrière, ce qui va te permettre soit de retourner à la position du commandant ou soit tout ce que tu voudras. Mais tu réussis quand même à les projeter au sol. Je te laisse aller avec ça.
Parfait. Donc effectivement, mon onde de choc les repousse, les projette contre les murs, au sol, sur les meubles, faisant grand fracas au passage. Et je profite de cette opportunité. Je tourne les talons, sachant que 5 adversaires, je ne pourrais pas me les faire, surtout des gardes et ce combattant entraîné, ce chef. Et je remonte les escaliers, je passe les couloirs pour atteindre le balcon et revenir vers Cal.
Et très bien. Et Cal, dis-moi, que va voir Lake lorsqu'il va arriver au balcon, alors que Kuriga a enlevé son casque, n'a plus d'armes, il est devant toi.
Est-ce que, juste me rafraîchir, dans le fond, on devait, là j'ai un blanc, est-ce qu'on devait juste le prendre ou l'exécuter?
C'est de l'éliminer. C'est un des ennemis politiques depuis 4 ans du roi Azim. Et en quelque part, tant que cet homme va vivre, ta vie va toujours être en danger.
Eh bien, c'est simple. Ce qu'on va voir, c'est tout simplement... Lorsque tu vas arriver, ben, tu vas voir une espèce d'éclair rougeâtre. Et une tête va lourdement tomber au sol. Suivi par un corps qui est décapité. Et le commandant qui vous regarde, qui vous toise, en fait, qui toise du deuxième étage avec un regard qui est dur comme l'acier.
On voit le capitaine Farid arriver en tronc. Commandant, il faut partir! Nous ne pouvons les retenir plus longtemps!
Le commandant aurait voulu dire non, je veux, mais il repense encore aux hommes qui sont évidemment morts et tout ça, et évidemment ça, s'attarder là plus longtemps signifierait plus de morts, donc effectivement un peu à reculons il repart et il descend et on prend le chemin de la sortie.
Lake ne demande pas son reste non plus?
Non plus.
Très bien. Vous allez donc quitter cette villa, tels des voleurs, des voleurs de vie. Et la caméra va s'attarder sur ce balcon. Alors que Aïcha, maintenant âgée de 30 ans, qui a été le mariage oblige, obligée de marier Jabba Kuriga, prostrée sur le corps de son mari, qu'elle n'aimait pas au début, mais c'était un homme bon pour elle. Un coriace adversaire politique pour le roi Azim, mais qui a quand même été un bon mari et un bon père pour sa fille.
Chapitre 2. Un hôte surprenant.
Que faites-vous?
Ok.
Pendant que vous réfléchissez, Solomon, que fais-tu pour t'extirper de ces racines gluantes?
Posant mes mains sur elle, elles sont pas mal prises dedans. Je vais me concentrer sur la ténèbre et sur mon élément naturel qui est le feu. Et automatiquement, en me concentrant, je vais invoquer la ténèbre pour que ces racines-là brûlent. Et je vais prononcer les mots que la colère des défunts te brûle et éclaire ta noirceur. Et me concentrant donc, je fais appel à mon pouvoir.
Immédiatement, on voit ton corps devenir flamme, l'espace de quelques secondes. Et tu vois les racines comme se contracter tout d'abord, comme fuir. Et lorsqu'ils ont... se sont détachés de ton corps, tu les vois comme disparaître en fumée, comme s'évaporer. Il reste qu'une genre de tache noire sur le sol. Tu dépenses un point de pouvoir.
Ouais.
Retour dans le couloir, alors que la créature est face à Ygritte et Kenan. Que faites-vous?
Son pouvoir n'a pas marché, c'est ça? J'ai pas compris.
Oui, il a fonctionné. J'ai pas fait tirer. Écoute, c'est
il a
pas
d'avis. Elle est en train de brûler, c'est ça?
Oui.
Non. Moi, j'étais pris par des racines dans ma chambre. Donc là, j'ai brûlé les racines qui m'emprisonnaient. Mais je suis pas dans le corridor avec la créature puis vous deux.
Ah d'accord, mais on ne voit pas, ok.
Non.
C'était pas clair ou toi, Ygritte, est-ce que tu l'as vu la scène aussi?
Oui. Okay, moi, j'ai très bien compris ce qui se passait.
C'est Thomas qui est
dans le champ gauche. C'est moi qui étais largué là.
Ok, très bon. Bien. Fait que oui, vous voyez peut-être une fumée, une drôle d'odeur de brûlé se dégager de la chambre alors que la créature vient à peine de sortir. Et que faites-vous, monsieur, madame?
Voyant que la créature en a après elle, puisqu'elle a prononcé enfin la guanac. Ygritte va se tourner en fait vers Kenan, puis va lui dire de prendre soin de Solomon et de la famille, puis va se détourner vers la créature et en lui disant « Si c'est moi que tu cherches, eh bien viens me chercher en courant pour sortir de la maison, pour l'éloigner en fait des autres qui les ont... si bien accueilli pour éviter qu'il arrive quoi que ce soit aux parents et aux enfants avec cette créature-là. Là.
Wow! Très courageux de la part d'Ygritte. Donc, on voit Ygritte lancer sa boutade et partir, tourner le dos à la créature et partir à courir.
Ouais, descendre les escaliers, sortir par la porte.
Très bien. Kenan, que fais-tu, toi, alors que tu vois Ygritte... cracher son venin à la gueule de la créature, l'invitant à venir croiser le fer et se mettre à courir.
De mon côté, je vais courir également et suivre derrière eux, mais je vais m'arrêter au niveau de la porte pour voir si Solomon va bien. Solomon, est-ce que ça va?
Finissant de brûler les dernières racines, oui, ça va. Il faut absolument protéger la famille. Et Ygritte, elle est ici pour Ygritte.
Écoute, on a vu Ygritte partir, décoller, dévaler les marches 4 à 4. Et la créature, écoute, pour suivre Ygritte, elle passe devant toi, Kenan. OK? Et elle fait fi de toi. Elle ne s'occupe pas du tout de toi. Fait que tu l'as vu là, se précipiter à la suite d'Ygritte.
Écoute, je vais avoir un petit peu de retard du coup, le temps d'aller voir Solomon si ça va bien, mais au moment où il va me répondre ça, je vais lui faire un signe de la tête pour lui dire ok, et je vais repartir dans l'autre sens pour aller aider Ygritte si elle a besoin.
Très bien.
La créature Ygritte.
Ygritte, c'est la demi-lune, donc on voit quand même assez bien. Tu sors de la maison. Quelle direction prends-tu? Où vas-tu?
Peut-être la direction d'un grand champ, d'un espace inhabité, loin des possibles dommages collatéraux ou de blessés, dans le fond, là, d'animaux. Tu sais, là, je dirais pas, mettons, à côté de l'étable, vraiment dans un endroit neutre où est-ce que... elle pourrait pas, la créature pourrait pas blesser autre que moi, tu sais, loin de Solomon, la famille, de tout le monde.
En initiative rapidité, tu as le deuxième niveau, hein, tu n'es pas la plus rapide. Tu comprends que tu as trouvé un champ qui est cultivé de hautes herbes qui t'arrivent environ, je te dirais, aux hanches. Et tu comprends rapidement que la créature est plus rapide que toi et que ça ne prendra pas très longtemps avant qu'elle te rattrape. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que si tu continues à courir, elle va finir par te heurter dans le dos.
Je vais l'attaquer en premier.
Donc, on voit une Ygritte faire volte-face?
Peut-être, je verrais bien, en fait, une Ygritte utiliser sa lance comme pour faire un demi-tour puis assainir un coup de pied, là, genre planter la lance au sol, faire un 360 en assainissant un coup de pied. Là.
Pendant ce temps-là, je pense que Nan partait à la poursuite d'Ygritte, hein, puis de la créature, et moi qui va suivre avec du retard, probablement que je vais voir surgir... De sa chambre, neuf doigts, et je vais lui dire vite, il faut absolument alerter les soldats, on se fait attaquer, et puis j'en dis pas plus, je pars à la course à la suite de Kenan.
Très bien, vous arrivez dehors tous les deux, ça vous prend un certain temps, vous devez arrêter votre course une fois arrivé sur le pas de la porte. Prêtez l'oreille, parce que vous ne voyez rien. T'sais, vous voyez aucun signe d'Ygritte ni de la créature. Et c'est en vous arrêtant que là, vous entendez comme grogner un peu. Là. Donc, aussitôt que vous entendez le souffle rauque de la créature qui s'évertue à rattraper Ygritte. Et vous identifiez que ça va se passer vers la gauche, vers les grands champs.
Est-ce que y a sur le pas de la porte peut-être une lumière qui est restée que je pourrais récupérer?
Non, il y en a une. Tu vois qu'il y a une lanterne, mais elle n'est pas allumée. Là.
OK.
Il y en avait une à l'intérieur de la maison pour pas que les gens se cassent la gueule, mais
c'est plus en arrivant dehors que peut-être Kenan pourra avoir le réflexe de récupérer une lumière s'il y a.
Non, tu vois qu'elles sont éteintes.
Écoute. Il y a quand même une lumière qui est éteinte dehors.
Oui, qui est comme accrochée.
Écoute, j'aurais quand même récupéré, en fait. Hein.
Oui, c'est une petite réserve d'huile.
OK.
Ygritte, cette manœuvre de planter ainsi ta lance et de pivoter autour d'elle comme une danseuse exotique dans un certain établissement que je ne nommerai pas ici, pour envoyer un coup de pied à la créature, ben écoute, ça va donner un 10%. Tu vas la surprendre, hein, de par ce geste de faire volte-face et de l'affronter. C'est une créature qui est quand même, qui sait se battre, hein, qui est à votre niveau. Donc, ton jet passe de 50% à 60%. Ça ne sera pas facile, Ygritte.
OK. 21!
C'est une réussite totale. Écoute, robustesse, on parle de 4. Et tu vas voir que sur une personne normale, tu aurais fait 4 de dommages. Mais là, lorsque ton coup va frapper, tu vas voir cette chair, parce que la créature est nue, hein, tu vas voir cette chair comme se recouvrir instantanément, comme d'une sorte de gale noirâtre et sanglante, avec des filets de pu qui miroitent sous cette demi-lune. C'est vraiment c'est ignoble, c'est dégueulasse. Donc ton pied va vraiment heurter quelque chose de dur. Son corps s'est comme solidifié. Mais tu vas réussir quand même à la projeter au sol et tu vas quand même y faire mal. Tu y vas y faire un dommage. Veux-tu nous décrire qu'est-ce qui se passe, Ygritte?
Je vois bien Ygritte courir dans les champs, les autres herbes, puis lorsqu'elle remarque en fait qu'elle est assez loin, puis en même temps qu'elle perd du terrain par rapport à la créature qui se rapproche de plus en plus d'elle, va piquer sa lance dans le sol et se faire un volte-face pour donner un coup de poing à la créature qui va reculer et retomber en fait à la renverse. En voyant qu'est-ce qui arrive à la peau de cette créature-là, ben c'est certain que c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus évident à voir étant donné l'environnement. Mais Ygritte va regarder, va prendre le temps de reprendre son souffle, regarder la créature puis lui dire mais quel genre de dégueulasserie que t'es, toi, au juste.
Et aussitôt, il y a une odeur méphitique qui vient t'agresser les narines. Ça sent vraiment un cadavre en putréfaction. Solomon, Kenan, vous courez vers le champ. Vous voyez, à travers les hautes herbes, deux silhouettes qui se font face. Une, entièrement noire, se relever. Elle dépasse Ygritte d'une bonne tête. Ygritte, la créature, tu vois qu'elle tend les bras, fléchit les genoux, se met comme en position d'attaque, et tu vois ses griffes se rallonger de 10 bons centimètres, et elle bondit sur toi.
Je vais sortir la lance de la terre où est-ce que je l'avais piquée pour tournoyer, puis la lancer en direction de la créature.
Vous étiez environ Ygritte, vous étiez environ à 2 mètres. Tu vas avoir le temps d'agripper ta lance, OK, parce que tu l'as frappée au corps à corps. Elle est tombée, mais elle n'est pas partie 10 mètres plus loin.
Okay.
Elle est tombée au sol. Non, tu n'es pas aussi forte que ça. Donc, tu agrippes ta lance et tu as juste le temps de la mettre devant toi. Tu peux t'en servir,
ouais,
peut-être que dans la manœuvre...
Protéger, là.
C'est ça. Peut-être que dans la manœuvre, tu vas réussir à la blesser s'il les déroule bien pour toi. Mais ce n'est pas ta force. Tu t'accroches à cette lance, mais tu as 7 niveaux d'action pour cette arme, alors que tu es beaucoup plus efficace avec les griffes qu'on te connaît. Mais...
Ouais, ben là, tu sais, j'ai pas vraiment eu le temps de penser à
non,
ça.
Non, je le sais, c'est ton premier réflexe de prendre ton arme, et c'est très bien. Mais c'est pour te dire que ce jet ne sera vraiment pas facile.
Où est-ce que tu vois que j'ai...
Non,
que
le 8 de... 8.
À le 8? Ah, ben c'est encore mieux. Bon, écoute, 8. Le jet se fait à 50%.
Oui.
Ça te ramène à... On partait pour un 40%. Mais c'est un 50%. Est-ce que ton...
63, c'est échoué.
C'est échoué. Est-ce que tu y vas avec un état émotionnel où tu acceptes cette fiction qui va te frapper un peu?
Un peu?
Oh, oui.
Des griffes de 10 pouces?
Ouais, mais tu sais, elle n'est pas proche du sang. Ça va faire mal, mais pas aussi mal.
Oui, ça peut... je vais accepter.
Alors que tu empoignes ta lance... que tu la mets devant toi, t'en servir un peu comme garde-fou, te protéger d'elle. Écoute, de son bras droit, elle frappe ta lance, la cassant net en deux. Et de son bras gauche, elle vient te labourer au niveau de l'estomac. Tu contractes tes abdominaux, arrondissant ton dos pour esquiver une bonne partie des dommages qu'elle t'aurait fait avec ses griffes acéré, mais quand même, tu sens la chaleur, tu sens la morsure dans ta chair. La caméra se tourne, pivote vers deux hommes qui accourent à ton secours. Don Juan de Marco, alias Kenan, et frère Solomon.
Non, écoutez, on arrive en même temps.
Oui, mais je pense que vous êtes quand même... rapide tous les deux, vous courez côte à côte. Messieurs, vous n'êtes pas encore à portée de la créature. Il reste encore un autre tour. Fait que j'imagine que vous courez encore pour vous rapprocher de la scène de combat pour aider Ygritte.
C'est une bonne question.
Ben là, si vous y allez pas, moi y aller, ouais.
Je suis en train de réfléchir à mettre, comment mettre à profit la scène, ben, les scènes qu'on a fait dans le bateau où on s'entraînait tous les deux.
C'est ça.
En surgissant peut-être un genre de combo de pouvoir tous les deux, tu sais, qui démontrerait le travail qu'on a fait ensemble, tu sais.
Ouais, c'est marrant, ben, j'étais en train de réfléchir à la même chose.
En fait, je fais même signe à Kenan, c'est maintenant. Et puis, afin qu'ils se souviennent de ce qu'on a travaillé ensemble sur le bateau pendant ces journées-là.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ce maintenant, Kenan?
Ça veut dire que Kenan va se mettre à se concentrer et intérieurement, il va tracer une horloge dans sa tête. Il va filer en disant « Le temps doit s'arrêter maintenant ».
Fait qu'on voit un Kenan courir, peut-être fermer les yeux l'espace d'un instant, continuer sa course et prononcer ses mots. Tu vas dépenser un point de focus. Est-ce que... j'essaie de comprendre ce que vous faites tous les deux, mais j'imagine que tu arrêtes le temps, mais est-ce que tu arrêtes Solomon dans sa course aussi? Tu arrêtes tout au complet? Qu'est-ce que tu fais?
Je vais arrêter le temps tout autour de Solomon pour qu'il ait le temps d'avancer et d'arriver
à la créature. Ouais.
Donc tout se fige, sauf un Solomon qui continue sa course.
C'est ça.
Très bien, vous allez gagner un tour. Donc Solomon, si tu veux, tu peux être sur la créature.
Ouais, parfait. Donc, Kenan avait un petit peu d'avance sur moi. Hein. Il était parti avant. Donc, je vais arriver à sa hauteur. J'attrape un des cimetières qu'il porte à sa ceinture. Et je la dégaine, hein, continuant à courir. Et je prononce les mots « Que le feu qui brûle en moi frappe comme un marteau » afin que le cimetière de Kenan devienne enflammé. Ça me coûte un point de focus.
Oui.
Et donc, je fonce sur la créature avec un cimetière en feu dans les mains. Mon NA va être de 9.
Très bon. T'es à 9, la créature à 9 aussi. Pour réagir. Donc, ton jet se fait à 50%. Alors que tu cours, alors qu'on voit ce halo de lumière hein, projeté par le cimetière de Kenan qui est maintenant en flammes, et on avait une petite brise qui venait caresser et former des vagues hein, sur les herbes du champ, hein, et tout ça s'est arrêté. Il n'y a que toi qui joues dans le temps et qui cours. Et cette créature qui... on la voit juste regarder, t'sais, juste ses yeux bouger, son corps est figé elle aussi, et au moment où tu la frappes, tout se remet en place et la créature réagit à ton attaque. Fais-moi ton jet. Je vais te donner quand même un bonus de 10%, étant donné qu'elle n'a pas pu agir et tourner rapidement pour te faire face, étant donné le pouvoir de Kenan, ton jet se fait à 60%.
26!
C'est une réussite totale.
Ça ferait 4 de dégâts.
Plus le feu.
Plus le feu, donc on serait à 5.
Et c'est ça. Et cette genre de cuirasse, comme une forme de gale qui s'est formée sur son corps, a une protection de 3. Donc c'est un 2 de dommage qui va passer sur la créature.
Parfait. Donc, je fonce sur elle, la lame en feu, et au dernier moment, pendant que le temps est gelé, la créature, elle, au moment où la lame arrive sur elle, fonce droit sur sa tête, le temps se défige, elle évite un premier coup de lame, Solomon enchaîne avec un coup à l'horizontale qu'elle évite également, puis finalement il revient à la verticale et la lame s'enfonce dans l'épaule de la créature, en partie stoppée par son espèce de peau cuirasse, et on sent encore plus fort l'odeur de chair maintenant qu'elle est en train de brûler par la lame, qui dégage une chaleur incroyable, et Solomon, un geste vif, dégage le cimetière. C'est une arme qui n'a pas du tout l'habitude avec laquelle se battre, lui qui est un spécialiste du marteau d'armes, mais ça reste pour lui dans la famille des épées, donc il a été entraîné à ça pendant toute son enfance. Donc, il fait face toujours à la créature maintenant blessée avec son cimetière enflammé, ses amis près de lui.
Alors que tu viens de frapper cette créature qui pousse un cri qui est un mélange de rage et de douleur. Tu vois du coin de l'œil 9 doigts, épée en main, sortir de la maison et qui est à mi-parcours, courant pour venir vous rejoindre. Et à la porte de la maison, sa femme qui sort et qui crie « Euron! Euron, reviens! » Fin de la partie.
C'est certain qu'il va faire tuer les enfants, si. Ah, mon maudit. C'est certain que tu vas faire tuer les enfants.
Pourquoi je ferais tuer les enfants?
Ah, parce que t'es un sadique.
Mais alors, ben là, la créature est dans le champ.
Oui.
Puis vous avez 9 doigts qui vient vous aider.
Oui, oui, oui. C'est pas fini, là, attends.
Et t'as-tu percuté comment que sa femme l'a appelé?
Euron?
Ouais. Euron Swan.
Ah!
C'est lui? Le soldat qu'il faut qu'il affronte?
Ouais. L'homme qui t'a accueilli, qui t'a invité sur ton toit, est le capitaine Euron Swan, appelé 9 doigts.
Ah, mais c'est un salaud, dans le fond, il veut qu'on... Mais non! Mais non! Il veut qu'on l'aime pour pas qu'on le tue!
Je pense pas que ce soit ça, mais je vous laisse à vos scénarios.
Non, moi non plus, mais...
Je sais que vous avez vos scénarios parallèles.
Je trouve la réaction d'Andréane très drôle, là. Ah, les carrés, je pourrais pas le tuer! C'est sa enfant, tout!
Ah, le petit Brendan, la petite Margot, le chien papillon...